Radio Couleur Chartreuse vous présente La Saine Cause. Du bien commun, de l'éducation populaire, des rencontres. Tous les jeudis à 20h et les dimanches à 15h. Émission proposée et présentée par André Duny.
Bonjour. Toujours chronique, saine, André Duny. Beau soleil sur Chartreuse. Et quelques réactions à l'actualité. En essayant de vous documenter, mais en essayant de vous faire partager mes insurrections intellectuelles, mes révoltes en faveur de la justice et en faveur d'un monde qui devienne vivable, qui redevienne vivable, car on s'éloigne du monde vivable. Alors, je commence par un petit hommage à Bernard Tapie, si vous voulez bien. Vous voyez, il est décédé, on lui a tressé des couronnes, l'Olympique marseillais, tout ça. On a un petit peu oublié le trucage des matchs avec entre OM et ce club du Nord, les millions enterrés dans un jardin d'un footballeur, lequel footballeur, en révélant le poteau rose à la presse, n'a plus jamais pu jouer dans aucune équipe, si à Furiani, un petit moment, et s'est trouvé dédaigné de tous. Hein. Le poète a dit la vérité doit être exécutée. J'espère que je ne serai pas exécuté, parce que quelques vérités, j'en dis quelques-unes. En voici une sur Bernard Tapie, dont je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie. J'ai un copain, je le salue ici, Joël, un des grands acteurs de la scène, et qui habite l'Ardèche, et qui m'a dit, oui, mais quand Tapie affrontait Le Pen, comme il était cinglant à l'égard de Le Pen, oui, mais le fond de cet affrontement n'était jamais dit, à savoir que le capitalisme a besoin du racisme qui prépare les esprits à une aventure qu'on appelle en général le fascisme. Le racisme ne fait que précéder ce qu'on appelle un système politique hyper autoritaire et qui assassine ou qui met hors de nuire ses opposants, désingue tout ce qui reste de démocratie, y compris la petite démocratie qu'on appelle la représentative, afin de pouvoir mettre en coupe réglée la société et la nature. C'est ça le fascisme, hein. On en a bien connu, et on voit que ça revient tout doucement en Europe, hein, dans des stades intermédiaires, jusque peut-être au coup d'état final. Et donc, les amis, soyons vigilants. Écrit sous la fourche, là, d'un tchécoslovaque, hein, scritto sotto la forca, comme disent les Italiens, c'est écrit sous la potence, homme de l'avenir, soyez vigilant. Et ne me reprochez pas trop de plomber votre journée. Il fait beau, on peut à la fois être content de ce qui se passe, mais aussi mécontent. On peut aussi être heureux en amour, mais aussi engagé politiquement, peut-être aussi très mécontent et pourtant vivre des belles choses, etc. Hein, donc, jouons la dialectique, jouons l'histoire toujours et jouons l'analyse systémique. Alors, moi, mon hommage à Bernard Tapie, notre grand capitaine d'industrie, fils d'ouvrier, hein, un de ceux qui ont trahi leur classe pour des valeurs de l'ennemi, on peut dire cela hein, d'une façon rapide, ce qu'on appelle les transclasses, les transfuges, ceux qui par l'école ou par d'autres moyens, comme le fait de s'enrichir en arnaquant les autres, parce qu'on ne peut pas s'enrichir si on n'arnaque pas les autres. Donc il y a deux voies, il y a l'école qui vous fait passer par les grandes écoles, et des grandes écoles, hop, une grande entreprise, et de la grande entreprise, hop, à la tête de l'État, et de la tête de l'État, hop, dans une autre grande entreprise, ou en vendant des mémoires, ou en faisant des conférences comme Bill Clinton à 200 000 euros la soirée. Hein, Sarkozy, c'est un petit peu moins, mais bon, il arrive bien à tirer de temps en temps 100 000. Ça permet de payer les frais de tribunal. On en est troisième condamnation, bientôt la quatrième. C'est quand même incroyable qu'on ait comme ça à la tête de l'État depuis des années, entre un baladur, il faut rien que je dise, mais bon, le tunnel du Mont-Blanc, c'était pas terrible. On a eu Fabius de côté PS, c'était pas terrible avec le sang contaminé. On a Chirac, c'est encore moins terrible. Bah, il est sympathique, Chirac, paraît-il, dans la tête des Français. Mais enfin, il a quand même siphonné le pognon des HLM de la ville de Paris pour payer 27 ou 30 permanents du RPR. Ça fait beaucoup de pognon, beaucoup d'ascenseurs en panne, beaucoup de chiottes qui ne se débouchent pas, beaucoup de fissures qui ne sont pas comblées, beaucoup d'isolations qui ne sont pas faites. Bref, voilà, un escroc, quoi. Bon, un escroc, un président escroc. Alors là, on a eu le super escroc avec Sarkozy, si je peux me permettre, sans avoir reçoit des coups sur la tête. Puisque la justice est passée pour au moins 3 affaires, il en reste encore quelques-unes. Et là, avec Bernard Tapie, on ne va pas parler des affaires qui l'opposent au Crédit Lyonnais, puisque certains disent que le Crédit Lyonnais l'a saigné, et d'autres disent qu'il a volé 400 millions au Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, c'est une banque nationale. L'affaire Tapie nous a coûté un bras, puisqu'il a réussi par un arbitrage voulu par Christine Lagarde... Et le pouvoir en place en France, alors je ne sais plus, ça a été préparé par Hollande et acté par Macron ou l'inverse. N'empêche qu'on a redonné 400 millions à Bernard Tapie, mais c'est notre pognon. C'est simplement notre pognon qu'il avait lui-même volé au Crédit Lyonnais, qui est encore notre pognon, puisque c'était une banque nationale qui joue avec notre pognon à faire des investissements indus aux États-Unis et qui a fini par avoir de gros, gros soucis. Eh bien... Voilà, Jean-Pierre Mahou m'a envoyé, je le remercie beaucoup, hein, il m'a envoyé les photos des ouvriers de la fabrique de balances de précision Terraillon, rachetée 1 franc en 1981 par Bernard Tapie et revendue 125 millions en 1986. Il m'a envoyé la photo des ouvriers en grève de Manufrance à Saint-Étienne, ça vous dit quelque chose, hein, Manufrance à Saint-Étienne. Accompagné par Bernard Tapie, que le pouvoir socialiste avait mis en sellette, vous vous souvenez, il faisait des tas d'émissions sur la guerre en face avec Yves Montand, etc. La guerre en face, c'était de sauver la France par une compétitivité résolue et entrer dans le grand jeu de la compétition capitaliste internationale, la mondialisation. C'était mes 2-3 premières émissions ici. Eh bien, les ouvriers en grève de Manufrance, Saint-Étienne, étaient accompagnés par Tapie. Ben vers quoi? Vers la fermeture, vers le gouffre, quoi. Il m'a envoyé la photo d'ouvriers de la fabrique de cadres en carbone, Look, racheté 1 franc en 1983 avec la complicité du gouvernement socialiste et revendu 260 millions en 1988. C'est pas mal, ça, la fabrique de cadres de carbone, Look, racheté 1 franc et revendu 260 millions de francs en 1988. Il m'a envoyé la photo des employés des boutiques bio La Vie Claire. Ah, La Vie Claire a été rachetée par Tapie. 1 franc en 1980, ça n'est pas fort. Hein. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y a un bout de pain, une salade, 2-3 pommes. Eh bien, on ne sait pas combien elle a été revendue en 1995. Il m'a envoyé la photo des artisans d'instruments de mesure de l'usine Testu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait Terraillon, puis il y avait Testu, racheté 1 franc en 1983 et mis en liquidation en 2003. Et là, Tapie a été condamné pour abus de biens sociaux. Hein, et on s'en met plein les fouilles, et après, on liquide, faute, parce qu'on n'a ni investi, ni quoi que ce soit. Photo d'une ouvrière en larmes, des usines de piles électriques Vondère. Racheté 1 franc en 1984 et revendu 470 millions en 1988, en 4 ans, à l'américain Ralston, qui fermera toutes les usines en 1994, 10 ans après. Et les ouvrières, évidemment, avec. Photo, m'a-t-il envoyé, de la jeune femme en pleurs dans la cour de l'usine Vondère. Mais elle est emblématique et intemporelle. Parce que, voilà, c'est le système Tapie. J'achète, je revends. Il y a beaucoup qui, maintenant, font cela. Hein. Vous savez, le grand truc dans l'immobilier, c'est d'acheter un immeuble pas cher, mettons 100 millions. Et puis, à la découpe, hein, votre immeuble, à la découpe, vous vendez les appartements. Et avec une brève rénovation vite fait au gaz, ou sans le gaz, et vous revendez ça 6 fois le prix ou 10 fois le prix. Bon, remarquez, en bio, c'est pareil, hein. Vous achetez des endives bio au Maroc ou en Hollande, ou plutôt au Maroc ou en Hongrie. Des fois, ça marche bien avec la Roumanie. Ils font des bonnes endives. vous mettez des pleins camions d'endives jusqu'à Rungis et vous les achetez, on va dire 0,20 ou 0,30 euros le kilo en Roumanie, et vous les revendez comme Super U, 14 euros le kilo, hein, comme j'ai vu récemment. C'est pas beau ça, 14 euros le kilo d'endives, eh ben, bio. Ceci dit, hein, vous en trouvez beaucoup moins cher dans des magasins de producteurs ou des AMAP à 4, 5, 6 euros, c'est-à-dire 3 fois moins ou 2 fois et demi moins cher. Les grandes surfaces servent du bio à la découpe. Photo d'usine, celle de Donnet m'a-t-il envoyé à Couvain en Belgique, racheté à 1 franc en 1988. Et là, c'est grâce à nos amis belges, du pouvoir belge, du parti politique dominant en Belgique, est revendu 100 millions de francs. Donc là, la culbute est de 100 fois plus. En 1991, donc là, en 3 ans, ça prend 100 millions à la région Wallonne. Et il a trouvé le moyen d'acheter une entreprise privée, de la revendre à la collectivité publique de la région Wallonie. Eh ben, c'est les Wallons qui ont payé, hein. Photo d'usine, celle de Donnet. Celle de Donnet. J'avais pris quelques notes là pour vous en parler. Mais aujourd'hui, ce qu'il a vendu à la région Wallonne, c'est une friche industrielle, ça valait rien. C'est des élus qui se sont fait avoir. Marc, c'est pas difficile d'avoir les élus. La plupart du temps, ils nous ont en signant n'importe quoi. Parce que quand on fait la démocratie sans la démocratie, tout seul dans des bureaux, qu'est-ce qu'on fait ? On vend tous les beaux terrains de l'Épin pour faire des zones de pavillons à 500 000, quoi. Vu sur le lac, 400 000, vu pas sur le lac. Et ça, c'est les élus qui ont classé constructible. Alors, copains, bien sûr, c'est toujours un copinage. Hein. On s'arrange toujours pour que les copains qui ont un prêt agricole puissent avoir de 3 000 euros, si c'est un hectare, à multiplier par à 1,5 million d'euros. 300, voilà, mon hectare agricole vaut 3 000, il est classé en mairie inconstructible, et eh ben il vaut 1 500 000 par la simple décision d'un conseil municipal. Vous comprenez pourquoi beaucoup d'agriculteurs, de propriétaires, plutôt plus trop d'agriculteurs, mais de propriétaires de terrain qui se précipitent dans les conseils municipaux pour que leur terrain prenne d'un seul coup 100 fois son prix, pas 100 fois, 150 fois, 200 fois son prix. Et voilà. Alors, c'était la méthode tapis, mais elle, on passait pas par la pseudo-démocratie représentative, celle qui se fait sans le peuple, puisqu'on est élu sans aucun mandat impératif. Vous voyez, tout se tient, la démocratie, le pognon. Et là, c'est toujours avec l'appui des politiques qu'il arrive à acheter ses usines. Hein. Je vous rappelle que notre premier milliardaire en France, il a racheté Boussac pour un euro. Non, pour un franc. Le pouvoir lui a dit « tu conserves ». Où vous conservez, enfin, il se tutoie dans les hautes sphères. Tu fais pas le con, hein. On te file le droit d'acheter Boussac et tout le tissage des vallées de...
A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her will she name the day he calls on her each night, and when she dims the light, it's 10 to 1 that you will hear her say, oh Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we
voilà que pour un franc, le pouvoir avait confié à Bernard Arnault, notre premier milliardaire français, 150 milliards de fortune personnelle, racheter tout le textile et des Vosges, des vallées des Vosges, et il y avait 30 000 emplois à la clé. Et il a dit, voilà, on te le vend pas cher, mais c'est clair, tu conserves le plus possible d'emplois, la totalité si possible, qu'on n'est pas sur le dos. Mais si, il a licencié 30 000 gus. Et il a commencé à faire sa fortune ainsi, et on voit qu'il avait comme maître Bernard Tapie. Et alors, donc le coup le meilleur, je vous dis, c'est donner en couvain en Belgique, puisque racheter un franc, revendu 100 millions à la région Wallonne, et maintenant friche industrielle. Et le pognon, il est où ? Oh ben c'est pareil à Aix-les-Bains. Hein. À Aix-les-Bains, il y avait des termes, les seuls termes nationales françaises, c'est-à-dire propriété de l'État, qui en tira un revenu conséquent, puisqu'à un moment donné, il y avait plus de 50 000 curistes par an, qui a donné lieu à toutes sortes de spéculations et de saloperies, puisque moi, j'ai été curiste pendant des années. Et des fois, vous trouviez des gens qui vous louaient un truc qui fermait mal l'hiver, enfin l'entrée de l'hiver, puisque l'hiver, il n'y a pas d'activité à proprement parler. Mais l'hiver ou le printemps, vous caillez les meules, vous avez du formica, vous avez du linoléum tout déchiré, mais il faut quand même claquer 300 euros par semaine. Ce qui était un pur scandale, tout le monde essayant de se servir sur la bête. N'empêche que c'était quand même des termes nationaux, on était bien soignés, il y avait du bon personnel, des bons massages, des bons bains de boue, des bons sièges à vapeur, bonne piscine, tout ce qu'il faut pour que remettre en forme les travailleurs épuisés par l'exploitation, on va dire, capitaliste. Hein. En fait, le propriétaire fait marner son ouvrier pour qu'il jute le plus possible, je dis bien juter, c'est-à-dire faire du jus. Et ensuite, il allait se faire réparer, je me souviens. Dans les premières années où j'y allais, les années 90, ou même avant, je sais plus, je croisais des gens qui marchaient arqués, des gens beaucoup obèses, beaucoup de maçons qui avaient beaucoup d'arthrite, d'arthrose, mais, et puis d'épicondylite, parce que le travail répétitif avec le bras droit, ça vous bloque les articulations. Voilà, et ben, Aix-les-Bains, ça valait au moins 150 millions, ce truc-là, ça a été vendu 1 million à je me souviens plus non plus. Voilà, le bien public bradé, un truc qui vaut 100 ou 150 millions, dans lequel l'État a mis votre pognon pour investir pour le repos des travailleurs et leur réhabilitation, si vous voulez, hein, pour qu'ils restaurent un peu leur capacité de travail, leur force de travail. En tout cas, prennent des vacances. Bon, à la limite, ils allaient en camping. Hein. Eh bien, à Aix-les-Bains, ça a été vendu 1 million. 100 fois ou 150 fois moins cher. Par qui ? Par le maire. Il est qui ? UMP. Trésorier de l'UMP, copain Sarkozy. Bon, je ne pense pas qu'il ait été inquiété sur cette affaire. Et je me garderai bien de l'accabler. Hein. Voilà. Bon, il suivait Bernard Tapie, l'idole des jeunes en 1983-84, appelé à la télé nationale par Mitterrand, comme Jean-Marie Le Pen. Hein. Jean-Marie Le Pen a été invité par Mitterrand à parler sur la 1 et la 2, qui étaient des chaînes nationales. Voilà, et tout ça, c'était pour dézinguer la droite, en disant que bon, ça ferait des voix qui partiraient de la droite vers l'extrême droite, et ça lui permettrait, même à minoritaire, de continuer à gouverner avec son parti socialiste. Voilà, mais le fait d'inviter à la télévision le diable fait que le diable devient sympa. Et du coup, il est légitimé à poursuivre son racisme systémique et ses propositions endiablées. Bilan des courses, ben, on se retrouve à l'époque, il y avait 0,5% hein, ou 1%, ben, maintenant on se retrouve avec un pourcentage énorme, parce qu'invité sur toutes les chaînes par-ci, par-là, mais pas par hasard, puisque les chaînes propriétés de milliardaires, c'est que les milliardaires ont tout intérêt à mettre au pouvoir des gens qui mettront de l'ordre si jamais ça bouge trop contre le PAS, contre le climat, pour le climat, pour l'augmentation généralisée du SMIC à 1400 par mois, pour l'isolation des immeubles, pour qu'on donne une allocation adulte handicapé à la personne et non pas au couple, puisque vous avez vu, la dernière félonie du système, c'est de donner une allocation à la personne, et si elle est mariée, on prend en compte les revenus du couple, ce qui fait que la personne handicapée qui est mariée, eh ben, ne pourra jamais se séparer parce qu'elle dépend des revenus de son conjoint, comme les femmes jadis, hein, qui ne devaient pas être en pantalon, qui ne devaient pas avoir de carnet de chèques et qui devaient se contenter des revenus du mari. Et si elles voulaient se barrer, ben, elles n'avaient pas de formation et elles n'avaient pas de quoi faire leur propre pognon, leur propre indépendance, donc elles acceptaient d'être tapées, par exemple, pendant longtemps, et n'ayant pas d'autre alternative. Hein. Moi, j'ai bien connu ça. Et voilà, on a enfin... Ah oui, j'ai oublié, les ouvrières cambodgiennes d'Adidas. Vous vous souvenez, Adidas, l'OM et de Bernard Tapie. Eh bien, les ouvrières cambodgiennes d'Adidas, une société qui pèse 10 milliards d'euros en bourse, que Tapie a possédé 3 ans Adidas, le temps de commencer sa délocalisation en Asie. Voilà, on va faire fabriquer par la petite indonésienne ou la cambodgienne. C'est simple, hein, la cambodgienne, c'est 70 euros le SMIC par mois pour 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Voilà, la Chine, ça marche plus parce que, bon, ils sont tellement enrichis que maintenant, les ouvriers gagnent 400-500 euros le SMIC, 500-600 euros le SMIC, alors qu'ils gagnaient 70 euros le SMIC il y a 30 ans ou 25 ans. Voilà, maintenant, ils ont le SMIC trop cher. Donc, il vaut mieux aller en Indonésie ou au Cambodge ou au Vietnam. Le Vietnam aussi, maintenant, le SMIC, il monte, enfin, c'est emmerdant. C'est suite au montage frauduleux de la revente d'Adidas au Crédit Lyonnais que Tapie a plongé dans les ennuis judiciaires. Mais c'est un montage frauduleux. Il a volé le Crédit Lyonnais. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, parce que peut-être que c'est pas... Si, ça a été jugé. Et donc, je ne dis pas autre chose que peut-être la vérité. En fait, tout ça est un hommage au capital, qui rachète du capital pas cher pour faire du capital très cher, et sans travailler, finalement. Il n'y a que des courtiers, des avocats, des hommes d'affaires, des patrons qui font le job pour l'actionnaire principal, Bernard Tapie, qui se balade avec le Fosséa, trois mâts, en rade de Marseille, de Cassis, et qui se la roule avec un hôtel à Paris de plusieurs dizaines de millions d'euros. On s'explique facilement, mais merci à Bernard. Sois heureux là où tu es, Bernard, puisque avec tout ce pognon que tu as gagné sur le dos des ouvriers et de la misère et du désespoir des gens qui sont lourdés du jour au lendemain, qui ont un petit crédit, qui doivent abandonner tous leurs rêves, merci Bernard, où que tu sois, bon, je préfère que tu sois au paradis malgré tout, tu as permis de mettre en pleine lumière comment fonctionne le système dont nous disons beaucoup de mal dans cette émission, le système qui fonctionne avec le capital privé dans toutes les activités maintenant, désormais. Je voulais juste faire une petite mise au point suite à une question que vous m'avez posée. Pourquoi vous dites capitaliste et pas libéraliste? Tout le monde parle libéralisme et néolibéralisme. Libéralisme. Le libéralisme, c'est la philosophie du capitalisme, c'est-à-dire la liberté individuelle au centre contre l'ingérence de l'État. En gros, c'est ça la philosophie du libéralisme, c'est-à-dire la liberté du renard libre dans une société de poules libres. Voilà, hein, c'est la liberté individuelle au centre contre les ingérences de l'État. Voilà, tous les principaux philosophes du libéralisme, que ce soit Tocqueville, Locke, anglais, ou Voltaire, qui était un grand champ du libéralisme. Vous savez que Voltaire, c'était la pire saloperie en matière d'exploitation de son personnel. Même Montesquieu, tous ces gens-là, des Lumières libéraux, des Lumières libérales, soutenaient le commerce libre et sans entrave. Libre et sans entrave. C'est-à-dire... trouvait tout à fait normal qu'on fasse du commerce des esclaves, qu'on asservisse les races inférieures, qu'on fasse l'expansion coloniale pour avoir de l'arachide, et puis avec l'arachide de faire de l'huile pas chère, mais en faisant suer le noir dans les plantations, les massacres, les tueries, les penderies, les Voilà, les millions de gens qu'on a assassinés au Vietnam pour avoir l'EVA, de le caoutchouc, pour avoir la banane, pour avoir le café. Tout ça, ça s'appelle le colonialisme et c'est dans l'histoire du libéralisme. Il y a un très bon bouquin là, c'est Domenico Lo Sordo, Contre-histoire du libéralisme. Il reprend un peu, mais vraiment il les développe très bien, les analyses de Marx dans le Capital qui montrent que l'accumulation primitive, c'est-à-dire l'argent nécessaire à fabriquer des grandes usines, au lieu des petites fabriques ou des artisans des villes à la fin du Moyen-Âge, c'est fait justement par une souffrance de fer, de feu et de sang, c'est-à-dire par l'exploitation, à commencer par les esclaves extraits de l'Afrique, avec la complicité certains de rois nègres, je dis nègres, excusez-moi, mais entre guillemets, c'est-à-dire de rois qui ont vendu leurs frères, ou des Arabes qui faisaient aussi, pour une part, le commerce, mais ce n'est pas les Arabes, c'est les riches Arabes, ils faisaient le commerce des esclaves pour s'enrichir, et nous, Français colons, eh bien, qui en avons profité un max dans ce commerce triangulaire, entre la sucre et l'esclave, hein, on fait en part de Nantes, on va en Afrique chercher sa cargaison, on l'emmène à la Martinique. À la Martinique, on la dépose et ils vont bosser pour faire du rhum avec la canne à sucre. Et de la canne à sucre, on emmène le sucre et le rhum à Nantes. Et ce commerce triangulaire a perduré. Mais les libéraux dont je viens de parler, les philosophes qui parlent du libéralisme, sont notamment l'omniprésent Tocqueville, ou John Stuart Mill, les Anglais, c'est les grands champions du libéralisme. Hutchison, Locke, je parle pas un mot d'anglais, j'ai horreur, mais c'est peut-être né à cause de ça. John Stuart Mill, Bentham, tout ça, mais aussi nos Lumières françaises, Voltaire, je le disais, Montesquieu, ça a été des héros de la liberté du commerce, des chantres du commerce sans esclaves. Voilà, justifiant les pires tyrannies au nom de la liberté, et on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut pour, et surtout on ne veut pas être emmerdé par l'État. Et du coup, mon copain, l'abbé Lacordaire, il était un peu dedans, un peu dehors, lui il dit quelque chose de fantastique, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Écoutez bien, quand j'entends dans des manifs gueuler « liberté, liberté », il y a quelque chose qui me gratte au mauvais endroit. La liberté, quand on dit la liberté comme une chose comme ça affirmée, ben ça veut dire la liberté du renard, libre dans le poulet libre. On ne peut pas dire liberté, liberté pour tout le monde, alors que ceux qui ont des milliards, je viens de le montrer, exploitent ceux qui n'ont rien du tout, que ceux qui sont propriétaires exploitent éventuellement un locataire. Je vois que les locations, ici, je me suis renseigné, à Pont-de-Voisin, c'est quand même du 12 euros en moyenne le mètre carré. Alors, vous avez 40 mètres carrés, ben c'est 500 euros sans les charges. Attendez, 40 mètres carrés, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés sans les charges. Bon, ça vous fait un grand studio ou un petit F1 ou un très petit F2. C'est hors de prix. Eh ben, c'est les prix du marché. D'ailleurs, voilà. Alors, on voit bien que la liberté, c'est la liberté du propriétaire, foncier, immobilier, entreprise, banque, transport, médias, ou bien entreprise pour fabriquer du divertissement, l'industrie du divertissement, libre de vendre des poupées gonflables, comme je l'ai montré à cette émission, avec Amazon et son catalogue de poupées de 11 ans d'âge. Vous me direz, bon, il y a des hommes qui sont tout seuls, ils vont s'enfiler une poupée en latex. Non, c'est même plus du latex, c'est un beaucoup plus joli que le latex, qui est trop mou, enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, mais il exploite les pires instincts. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, maintenant, avec la réalité augmentée, on va vous faire des réunions avec des gens que vous aurez l'impression qu'ils sont en face de vous. De plus en plus, on transforme le réel en réel augmenté, qui est en fait que de l'artificiel, et on vous fait vivre dans un monde dont vous ne voyez pas qu'il est en train de partir à la ruine, parce qu'à force d'être sur des écrans, et dans cette vie artificielle, nous ne rendons même plus qu'il fait beau, que la Chartreuse est belle, qu'il y a ici à faire à manger pour l'ensemble des communes et des habitants, sans aller chercher la nourriture à 3500 km en camion, qui nous pourrit l'effet de serre. Voilà. Donc, à la question de cet auditeur que je remercie, sympa. Le libéralisme, c'est la philosophie. Liberté individuelle contre les ingérences prétendues de l'État. Or, si État il y a, c'est un État qui a été imposé par des luttes pour essayer de réguler, par exemple, la durée du travail. S'il n'y avait pas eu les luttes ouvrières, les arrêts brusques de la production à la Bridoire, à Paris, dans les charbonnages du Nord, s'ils n'avaient pas arrêté le boulot du jour au lendemain, même parfois ils arrêtaient à 3 heures de l'après-midi, net le boulot en disant « il y en a marre », il faut de la sécurité dans les mines, il faut arrêter avec la coulée d'acier qui se fait dans des conditions de risque mortel, avec des morts, effectivement. S'il n'y avait pas eu des lois pour dire c'est 8 heures de travail au lieu de 14 heures, je vous rappelle qu'avant, la journée de travail, c'était 14 heures, 7, 6 jours par semaine. Que les enfants de moins de 8 ans travaillaient dans les usines, dans les mines. En France, avant la loi sur le travail des enfants de 1848, après la Révolution, on a quand même instauré une loi disant on n'emploie pas des enfants qui ont moins de 8 ans dans les mines. 8 ans. Puis après, ça a été 11 ans, puis 12 ans. Voilà. Et puis après, il y a eu la scolarité obligatoire qui a dit on n'emploie pas les enfants. Ben si, moi j'ai été employé... Quand les foins sont sous le risque d'orage, eh ben vous n'allez pas à l'école, vous chargez le foin. Vous chargez le foin. Même en France, très tard, je vous dis, même après la guerre, l'on chargeait le foin quand l'orage menaçait, vous n'alliez pas à l'école. Mais on a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire pour justement, entre autres, instruire cette main-d'œuvre et la rendre un peu plus docile, un peu plus respectueuse des libertés individuelles, parce que la philosophie de l'école, c'est une philosophie libérale. C'est les lumières libérales, mais ce n'est pas vraiment les lumières, disons, de la loi qui libère. Enfin, si, il y a une bonne partie, la loi républicaine, c'est la loi du peuple qui met en place des règles qui permettent de vivre ensemble, gna gna gna. Mais quand on aborde le travail, oulala, c'est encore un secteur qui brûle. Voilà. Donc, je répète, la philosophie libérale, c'est la philosophie du capitalisme. Elle met la liberté individuelle au centre, contre les ingérences de l'État. Elle gueule partout liberté, liberté, sans préciser que sa liberté à elle, c'est la liberté des propriétaires et des libéraux, c'est-à-dire la liberté qui opprime, c'est le droit d'opprimer autrui et d'en faire de l'argent. Alors moi, je suis d'accord pour liberté, égalité, fraternité. Hein. Fraternité, c'est vital parce que tout va s'effondrer. On a intérêt à se donner des morceaux de pain mutuels parce qu'il y en a qui vont crever la gueule ouverte. Bien sûr que cet idéal d'égalité, c'est 100% valable puisque il n'y a pas de démocratie sans égalité. Enfin, aujourd'hui, l'égalité, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme disaient certains. Notamment ceux qui, étant élus, font la politique sans référer à ceux qui les ont élus. Il n'y a pas de démocratie au sens l'égalité n'est pas dans la décision, elle est juste dans les élections. Hein. On se bouge un peu une fois tous les 5 ans et hop, on laisse faire les pires scénarios. Donc, la liberté, il faut faire très attention avec ce concept. C'est la liberté de qui face à qui. Je vous rappelle que dans le droit du travail, il est bien explicité que c'est un rapport qui est, non égalitaire, le rapport de travail, puisqu'il y en a un qui possède l'usine, qui possède le scénario de production, les machines, qui doit vous faire le maximum en peu de temps où il vous emploie, et donc on a une relation dissymétrique. Si vous allez au tribunal administratif, ou plutôt au tribunal de prud'homme, hein, qui règle les litiges du travail, eh bien ça c'est pris en compte. On sait que l'ouvrier a moins de pouvoir que le patron dans ce conflit-là, et donc les élus du personnel ont à cœur de bien tenir compte de cette relation extrêmement déséquilibrée. D'un côté, il y a celui qui... Alors, on ne va pas dire le patron est libre et l'employé est libre. Bon, ça, c'est la philosophie aux États-Unis. En Grande-Bretagne, ce n'est pas en France. En France, notre idée d'égalité, c'est la sécurité sociale. Notre idée de la liberté, c'était de faire gérer la sécurité sociale par les ouvriers, sans les patrons. Hein, je rappelle, c'était ça en 1947, là, quand Croizat a lancé la chose avec la... le blanc-seing du général de Gaulle, hein, qui était président du Conseil, président de la République, pardon. Et, comment dire, aujourd'hui, progressivement, ensuite, on a mis les syndicats à gérer ça. En fait, les syndicats, c'est les délégués du personnel, délégués de délégués, enfin, les principaux responsables. Et puis ensuite, c'est l'État qui a pris la main et qui a entièrement, qui gère entièrement la sécurité sociale aujourd'hui, et qui dit non, on va dérembourser tel médicament, on va pas couvrir ça, on va couvrir ça, etc. Vous voyez comment ça a évolué, on a laissé prendre le pouvoir au nom de la liberté, du libéralisme, voilà. Alors, gueuler liberté, liberté, moi non. Dans les manifs, on ne fait pas n'importe quoi avec la vie, et même si je suis anti-pass sanitaire, naturellement, hein, et très réticent à l'égard de certains vaccins, notamment l'ARN messager, hein, qui diminue sérieusement nos défenses naturelles, hein, qui comprend un tas de produits, il y en a une 200, dont certains sont parfaitement délétères. Hein. Je rappelle que dans les autres vaccins aussi, il y a des choses délétères. Hein. Il n'y a pas que du jaune d'œuf. Il y a des vaccins qui ont été faits sur des bases d'aluminium, et même, pire, de mercure. Vous avez des vaccins en mercure, à l'aluminium, et après on s'étonne que quelques années après, tout ça, ajouté aux casseroles en aluminium, ajouté aux emballages en aluminium, ajouté à gna gna gna.
From the floors of Tokyo, down in London towns of Coco, with the record selection and the mirror's reflection, I'm dancing with myself. When there's no one else in sight, in a crowded, lonely night. Well, I wait so long for my love vibration. I'm dancing with myself. Oh, 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 dancing with myself. I'm dancing with myself.
aluminium, eh ben, font des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. C'est les métaux lourds qui nous font Parkinson. Alzheimer, c'est encore autre chose. C'est peut-être aussi l'ensemble de toutes ces pollutions qui rendent notre cerveau incompatible. Mais vous voyez, vu mon âge avancé, mon cerveau fonctionne très bien, mais peut-être parce que je l'ai toujours fait fonctionner. Si vous faites fonctionner votre cerveau, pas seulement en faisant du Scrabble ou des mots croisés, hein, peut-être que vous évitez ou vous retardez l'apparition de ces maladies, disons, cérébrales, extrêmement invalidantes et tragiques pour l'entourage. Hein, quand vous pensez qu'une épouse ne reconnaît pas son époux ou qu'un époux ne reconnaît pas son époux, c'est quand même tragique et ça dure des fois 4-5 ans d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elle vient me faire chier, celle-là, dit l'époux, alors que sa femme l'a aimé au moins une bonne partie de sa vie, et il l'envoie paître en la prenant pour une étrangère. C'est tragique, mais tout ça a une histoire, toujours l'histoire et le systémie. Quelle histoire qui fait que nous soyons si nombreux, 1 sur 2 en 2050 sera Alzheimer, 1 sur 2 passé 80 ans. Écoutez les amis, il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'était quand même pas comme ça il y a un siècle. Il y a un problème, ou deux siècles. C'est que depuis deux siècles, la révolution industrielle capitaliste a mis du charbon partout, a mis du pétrole partout, a mis des métaux lourds partout, a mis des machines partout, a mis bon, la surveillance électronique partout. Mais on vit dans un univers non seulement artificialisé, mais totalement pollué, l'air, l'eau, le terre, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la liberté, il faut toujours que ce soit une liberté des opprimés, que ce soit toujours dans une analyse. Ne braillez jamais liberté en général, mais toujours dans un contexte systémique. Qui a du pouvoir économique, qui a du pouvoir politique, qui a du pouvoir sur sa vie, voilà. Et dire liberté, liberté, ne sait que rabâcher un des dogmes du libéralisme, philosophie du capitalisme, qui donne en quelque sorte l'arôme spirituel pour mettre l'autre en exploitation ou en suggestion. Hein. Parce que dans un couple, dire chacun a la liberté alors qu'il y en a un qui gagne du pognon puis l'autre qui gagne rien, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de liberté pour la femme quand elle gagne rien. C'est pourquoi l'émancipation des femmes s'est d'abord faite sur une base d'économie. Après, la femme a continué d'être victime du phallocratisme, du patriarcat, etc. Mais quand elle a l'indépendance économique, certes, ça ne suffit pas, hein, vous pouvez vous faire tabasser pendant... Hein, vous avez eu le nombre de femmes, une sur trois, qui a été agressée sexuellement, tabassée ou violentée, ou victime d'inceste en France. C'est un pays, il faut revoir de fond en comble les bases de notre société, des morales de vie, des philosophies de vie. Mais dire que tout le monde est libre, ça ne tient pas debout, puisqu'il y en a qui sont plus libres que d'autres, comme dirait Coluche. Hein, si moi je suis propriétaire ou si je gagne beaucoup de pognon, je n'ai pas le même pouvoir, la même liberté que celui qui ne gagne rien. Et si je l'emploie, ben, c'est moi qui ai le pouvoir. Et donc, faut arrêter de... Voilà. Il vaut mieux dire, chercher les conditions dans lesquelles nous pourrions tous être beaucoup plus libres. Et donc, ça veut dire se battre contre le pouvoir économique, le pouvoir politique et même le pouvoir intellectuel. Dans ce qu'on appelle, ou ce que je cherche à promouvoir dans ces émissions, les communs, c'est-à-dire de la justice sociale, se passer de chef, se passer de propriétaire d'usine. Par exemple, les ouvriers qui travaillent en coopérative ouvrière de production, en SCOP, sont beaucoup plus libres que lorsqu'ils travaillent sous la férule d'un patron lui-même, pressuré avec un million par mois, hein, mais pressuré par ses actionnaires qui gagnent des milliards. Voilà, ça marche beaucoup mieux la liberté lorsque c'est en intelligence collective, quand on passe de l'impuissance individuelle à la puissance de l'action collective. Vous voyez bien, tout seul, vous pouvez gueuler en disant « le pass sanitaire, c'est une horreur, ça viole nos droits, c'est pas utile, etc. » On l'a pas demandé, le pass sanitaire, quand il y avait ni blouse, sauf avec des poubelles, ni masque, ni gel, ni etc. Et qu'on disait « il faut continuer de soigner, il faut continuer de camionner, il faut continuer de travailler dans les usines et continuer dans les métros pour aller au boulot. » On n'a pas emmerdé les gens, et maintenant, on les... Bon, bref. Donc, soyons bien clairs, c'est dans des systèmes, d'action collective, de contre-pouvoir, de pouvoir collectif qu'on est le plus épanoui. C'est dans les systèmes où la propriété est partagée par les individus. C'est dans un système où ce n'est pas 4 gus ou 2 gus qui font la politique municipale et donnent à leurs copains des terrains constructibles, comme je vous l'ai raconté, qui rapportent des millions, ou des centaines de milliers d'euros sans rien foutre, qu'on va être libre. On va être libre quand on va être associé à la gestion économique, au pouvoir économique. Donc c'est clair qu'il faut sortir du capitalisme si on veut être libre. Parce que là, on est tout le temps, soit sous la coupe d'un sous-chef, lui-même sous la coupe d'un chef, lui-même sous la coupe d'un patron, lui-même sous la coupe des actionnaires, qui décide, hey, tu me fermes cette boîte, tu te démerdes comme tu veux, mais tu vires les 10 000 personnes, comme Tapie l'a si bien fait. Voilà. C'est très important de se poser ces questions. Et pour ce qui est de la partie individuelle, bah, c'est pas parce que vous gagnez autant que votre mari, celui-là ne va pas vous tabasser, le vice-versa étant très rare. Eh bien, à ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle l'aliénation humaine. Et c'est parce qu'on a appris la soumission, c'est parce que j'en ai parlé dans 2-3 émissions, on a appris à être serpillière que des fois on se laisse taper. Il faut apprendre à l'école, dès la maternelle, l'autodéfense. J'avais une amie qui était directrice d'école maternelle. Quand les gamins se tapaient, elle leur faisait mimer dans la salle de classe le conflit. Et elle faisait analyser comment on se défend contre un plus fort. Moi, qui ai travaillé beaucoup dans ces écoles, j'étais témoin dans les cours de récréation de trucs abominables. Des gamins de 5 ans, costauds, solides, qui filaient des coups de poing dans la figure à des petits nounours gentillets, blondinets ou pas, qui venaient les voir, qui museaux en avant, et l'autre lui a balancé un coup de poing dans la gueule. Et pendant ce temps-là, les instits, ben, elles ne peuvent pas tout voir, ou alors elles prennent un café, ou elles en ont marre, elles ont déjà bien bossé, alors qu'on peut faire mimer ça aux enfants de 4 ou 5 ans. Vous voyez, le travail peut commencer très très tôt. Qui c'est qui range les crayons? Qui est-ce qui fait les gâteaux? Comment? Bon, bref. Et là, en mimant, on se rend compte qu'il y a des gens qui acceptent d'être victimes. Voilà, on est une fille, ben c'est normal qu'on se fasse taper, on est moins forte, on est moins ceci, on est moins cela, il nous manque un pénis, il nous manque, etc. Pardon les amis, on est des êtres humains et on est égaux. Et si on veut faire de l'instruction républicaine, il faut faire de la formation à la réflexion sur la base de l'analyse, comment on se défend quand on est agressé. Et c'est là que tout change. Au lieu d'être une victime et d'accepter passivement d'être une victime, si on se met en groupe contre un agresseur et qu'on l'entoure, eh ben il ne peut pas violer. C'est arrivé à mes étudiants de la fac de Besançon qu'un groupe d'étudiants rentre, me parle d'une situation abominable qui s'est passée, que leurs parents n'ont pas digéré. L'un me dit, ma mère, elle ne bouffe plus depuis une semaine, parce qu'elle assistait au viol devant la gare de Besançon, il y a 600 personnes. Hein, le vendredi soir, il y a énormément de gens qui partent et qui arrivent. Et là, il y a quatre énergumènes qui violaient une nana dans le parc qui est au-dessus de la gare de Besançon. Eh bien, il n'y en a pas eu un seul tétanisé par les cris de la fille qui soit approché des mecs, soit avec des canettes, soit en se mettant autour, soit... Tout le monde a eu peur qu'ils se retournent contre eux. Et ça est arrivé dans le métro Saint-Michel à Paris, c'est arrivé partout, ce genre de choses. L'extrême lâcheté des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas préparés, ni à l'école, ni ailleurs, à se battre et à comprendre que si on agit collectivement, ce n'est pas possible que 4 mecs soient plus forts que 5 ou 600 personnes qui viennent sur eux. Vous comprenez? Bon, peut-être qu'on va se ramasser un pain, mais on sera tellement heureux toute sa vie d'avoir ramassé un pain, plutôt que d'avoir regardé à 300 mètres, sans rien faire, une scène de noyade ou de viol. Est-ce que vous saisissez? C'est que la liberté se conquiert en apprenant pas à pas à se défendre, d'abord en n'acceptant pas d'être victime, en cherchant aussi des rapports de force non violents avec les copains et les copines, en gérant ensemble les choses, on est bien plus fort. C'est tout ce que je voulais dire dans ce jour. Et puis voilà, je voulais terminer sur une note. Hein, ce matin, il y a le rapport de RTE, la réglementation du tarif de l'électricité, hein, qui rend sa copie, mais c'est épouvantable, quoi. Il faut faire des centrales nucléaires. Tout ça va nous péter à la gueule. Scénario numéro 1, mais les centrales nucléaires à 60 ans, elles sont prévues pour 30 ans, max 30 ans. Elles ont déjà toutes plus de 30 ans, et on va les mettre à 60 ans, donc 200 milliards. Donc on peut multiplier par 4 au moins le tarif de l'électricité. Dans un autre cas, on les diminue de moitié, mais on fait des centrales, comme a proposé Macron, des micro-centrales, mais aucune n'existe. Elles ne seront pas prêtes avant 35-40, ça c'est pas du tout un argument. Ça veut juste dire que quand ça nous pètera la gueule, ça fera moins de dégâts que s'il y en a une qui pète et qu'il faut évacuer Bordeaux et toute la région du sud-ouest, comme ça a failli être le cas à Blaye, hein, je vous rappelle. X fois que cette envahie par un coefficient de haute marée et des vents d'ouest, la centrale avait un diesel, s'est mis en rade, et le diesel de secours ne repartait pas pour faire descendre les barres, et donc le cœur montait en température telle que ça a failli exploser. Et donc le maire de Bordeaux a reçu du préfet un coup de fil, c'est historique, ça, à 1h du matin, préparez-vous à évacuer 450 000 personnes. Vous voyez comment on va faire, hein. Les copains, il faut ni nucléaire, ni... On paye un truc dramatique, c'est que pendant des années, nos grands pétroliers nous ont caché la vérité, vous l'avez encore vu hier soir sur la 5, hein, l'histoire du charbon et du pétrole aux États-Unis nous ont caché que ça allait nous foutre le climat en l'air, ils le savaient depuis 60 ans, 80 ans, et qu'on n'a rien fait, les gouvernements n'ont rien fait au service de ceci, n'ont rien fait pour installer ce que je propose depuis 20 ans. Vous vous rendez compte, des petites turbines, Voiron, Saint-Béron, tout ça c'est de l'électricité pour la Chartreuse, il y en a partout, des petites turbines ici, des systèmes de petits méthaniseurs pour les excédents agricoles, pas pour faire comme en Allemagne, hein, où ils font du maïs pour faire de l'électricité, parce que ça leur apporte, c'est pas du tout ça que je dis, méthaniseur municipal, c'est votre propriété, et vous faites comme avant, les petites usines à gaz, propriété des communes, où vous faites un peu de gaz, un peu d'électricité, et peut-être un peu de chaleur, puisque voilà, vous pouvez voir avec l'alcool de bois, faire tourner quelques véhicules, des cars, des machins. Il va falloir complètement changer de vie, beaucoup plus sobre, beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins de bagnoles, beaucoup moins de grandes usines, surtout plus de moellons, de ciment qui font... 90 entreprises font les deux tiers des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut qu'on arrête. Voilà, il faut qu'on arrête. Et qu'on passe à un autre système aujourd'hui. Alors, vous me téléphonez 06 75 80 05 119.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.